tous, bienvenue dans notre émission Victor Hugo d'hier à aujourd'hui.
Je suis Chloé.
Et je suis Léana. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un podcast sur la biographie de Victor Hugo et de son œuvre monumentale connue aux quatre coins de la planète et qui traite de différents sujets sensibles au 19e siècle qui lui tenaient à cœur.
Et qui nous tiennent à cœur.
Évidemment.
Tout d'abord, voici une interview de notre ami Victor Hugo, présentée par Léa, Noam et moi-même.
Oh, attendez, j'ai une info de dernière minute. Nous avons une deuxième interview présentée par Jade, Livia, Lucas, Jessim et Thiago. Génial, c'est parti !
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit une légende de la littérature française, mais version moderne. Accueillons Victor Hugo.
Bonjour, ravi d'être là, même 2 siècles plus tard.
Pour commencer, qui êtes-vous ?
Je suis Victor Hugo, écrivain, poète et homme politique français. J'ai écrit des romans très connus comme « Les Misérables » et « Notre-Dame de Paris ». J'aimais défendre les pauvres et me battre contre les injustices.
Pourquoi avez-vous écrit autant de livres ?
J'écrivais pour défendre mes idées. Je voulais dénoncer la pauvreté, la peine de mort et les inégalités. Par exemple, dans Les Misérables, je montre que même quelqu'un qui fait des erreurs peut changer et devenir une bonne personne.
Qu'avez-vous écrit exactement ?
J'ai écrit des romans, des poèmes et des pièces de théâtre. J'ai aussi écrit des discours politiques. Mes œuvres parlent souvent d'amour, de justice, de liberté et de misère sociale.
À quelle époque avez-vous vécu ?
Je suis née en 1802 et je suis mort en 1885. J'ai vécu au 19e siècle, une période avec beaucoup de changements politiques en France, comme des révolutions.
Où avez-vous passé votre vie ?
J'ai vécu surtout en France, notamment à Paris. Mais j'ai aussi été exilée pendant 20 ans sur l'île de Guernesey parce que je m'opposais à l'empereur Napoléon III.
Un dernier mot pour nos élèves de 4e qui nous écoutent ?
N'ayez pas peur de défendre vos idées et de rêver grand. La littérature peut changer le monde.
Merci Victor Hugo de nous avoir accordé cette interview. Vous pouvez retourner, vous reposer et surtout, n'oubliez pas que vous êtes un exemple pour tous les jeunes d'aujourd'hui.
Merci, au revoir.
Bonjour chers auditeurs. Nous recevons aujourd'hui Victor Hugo avec qui nous allons discuter et à qui nous allons pouvoir poser quelques questions.
Bonjour monsieur Hugo. On vous connaît surtout comme écrivain, mais vous n'êtes pas que ça.
Bonjour. Non, je suis aussi un poète, dramaturge et romancier, mais aussi un homme politique, journaliste, dessinateur ou encore décorateur.
Où et quand êtes-vous né ?
Je suis né à Besançon le 26 février 1802. Je suis donc français et fier de l'être.
De quel mouvement littéraire faites-vous partie et avec qui ?
Je fais partie du mouvement littéraire que l'on appelle le romantisme, avec notamment Alfred de Vigny.
Quelles sont vos principales œuvres ?
Mes principales œuvres sont « Le dernier jour d'un condamné » que j'ai écrit en 1829. Il y a aussi « Notre-Dame de Paris » qui est sortie en 1831 et surtout « Les Misérables » qui a été publié en 1862.
Quels sont les faits marquants de votre vie ?
Dans ma vie, plus précisément à 14 ans, j'ai créé une célèbre citation « Je veux être Chateaubriand ou rien ». J'ai aussi fait de célèbres poèmes, romans, etc. J'ai perdu malheureusement 4 de mes enfants et j'ai ensuite célébré l'art d'être grand-père.
Avez-vous des thèmes de prédilection ?
Mes thèmes de prédilection sont la misère, la pauvreté, la souffrance, la mélancolie, la nostalgie, l'amour, la mort, le mal du siècle, la révolte et la société.
Peut-on revenir sur votre exil forcé ?
À cause de mes prises de position et du coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, j'ai dû quitter la France déguisée en ouvrier pour la Belgique où j'ai résidé un peu plus d'un an avant de rejoindre l'île de Jersey.
Quels sont vos projets dans un futur proche ?
Je prévois d'aller voir la nouvelle adaptation théâtrale de mon roman Les Misérables. Peut-être que je vais aussi créer un film, mais je n'en suis pas sûre, donc je n'en dis pas plus.
Que peut-on vous souhaiter ?
Vous pouvez me souhaiter la réussite de mon futur film et de mes futurs projets, ainsi que ma santé.
C'était super ! Maintenant, on va laisser notre bon vieux Victor Hugo reposer en paix. Nous allons donc passer à un autre sujet, l'histoire des arts, avec un magnifique tableau tiré des Misérables. Cette œuvre est présentée par Fanny, Gabin et Clément.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une œuvre très complète tirée d'un magnifique roman de Victor Hugo, Les Misérables.
Tout d'abord, il faut savoir que cette œuvre est une île sur toile intitulée La poupée de Cosette, peinte par Léon-François Comère en 1885.
Léon-François Comère est un peintre symboliste français qui est connu pour ses scènes mythologiques et historiques. Il s'était arrêté de peindre pendant un bref instant, mais a recommencé lorsqu'il a participé à la guerre franco-prussienne de 1870. Il expose pour la première fois ses œuvres au Salon de Paris en 1871. Il a étudié en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.
Cette œuvre représente Cosette, la petite fille principale du célèbre roman « Les Misérables ». Nous la voyons qui dort paisiblement, avec dans les bras une grande poupée. Elle dort à même le sol, dans des vêtements sales et usés, très sombres, tandis que la poupée contraste affreusement avec son image. En effet, elle est très belle, vêtue d'une somptueuse robe rose avec des détails bleus. Elle a la peau très pâle, on dirait même qu'elle est mise en lumière. Elle a du rose aux joues, comme si elle était vivante et en bonne santé, contrairement à Cosette qui a l'air d'être pauvre. Nous pouvons dire que la poupée est l'opposé de la jeune fille.
En effet, je trouve cette œuvre très intéressante. Elle m'émeut car Cosette a l'air plus heureuse et paisible à la proximité de cette poupée, malgré le fait qu'elle se fasse maltraiter. Elle est en paix aux côtés de cette dernière.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà pourquoi cette œuvre est si impressionnante.
Au revoir.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Waouh, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. C'était passionnant. Maintenant, nous allons passer au groupe de Léna, Mila, Julia, Lily et Safa, qui parlent du travail des enfants au XIXe siècle.
Il y a deux siècles, les enfants n'étaient pas considérés comme aujourd'hui. Ils ont entre 8 et 16 ans et travaillent de 13 à 15 heures par jour, sans pause, à la place de machines fonctionnelles pour l'industrie. Pas d'école, pas d'études, juste du travail mal payé, en tout cas moins que les adultes. Ils employaient surtout les enfants des familles pauvres afin qu'ils puissent aider leur famille dans le but d'éviter l'oisiveté et la paresse.
La loi du 18 mars 1841 limite le travail à 8 heures pour les enfants de 8 à 12 ans, 12 heures pour les enfants de 12 à 16 ans et interdit le travail de nuit pour les moins de 13 ans, entre 21 heures et 5 heures. Malgré tout, les infractions restent fréquentes. Actuellement, d'après l'article 4153.3, l'emploi du mineur à partir de 14 ans est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins 14 jours ouvrables.
Voici la lettre d'un enfant du 19e siècle parlant de son quotidien. Cher enfant de 2026, en cette année de 1856, je travaille dans les champs et non à l'école. J'aide mes parents au lieu de partir en vacances. Je traie les vaches au lieu de faire mes devoirs. Enfin, les filles ne peuvent pas aller à l'école tandis que les garçons peuvent faire des études. De plus, nos pères travaillent alors que nos mères font le ménage, les courses, la lessive, la garde d'enfants.
Mon Dieu, c'était vraiment horrible à l'époque! Néanmoins, malgré toutes ces horreurs, il est important de savoir l'évolution de la société envers les enfants. Désormais, nous allons écouter un groupe composé de Marius, Emma, Juliette et Kilena sur un casting de Fantine.
Bonjour, tu es réalisatrice. Tu vas créer un long métrage d'après le roman Les Misérables. Qui est Fantine pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Pour moi, Fantine est l'un des personnages les plus émouvants du roman Les Misérables, écrit par Victor Hugo en 1860.
Qu'incarne son personnage ?
Fantine est une jeune femme pauvre qui doit élever seule sa fille. À cause de la misère et de l'injustice sociale, sa vie devient de plus en plus difficile. Victor Hugo utilise ce personnage pour dénoncer la pauvreté et montrer les difficultés que certaines femmes pouvaient vivre au 19e siècle.
Ce personnage est-il toujours d'actualité ?
Aujourd'hui, ce personnage est d'actualité et très célèbre puisqu'il a été adapté au cinéma, au théâtre et dans des comédies musicales. Pour représenter Fantine à l'écran ou sur scène, il faut choisir une actrice capable de montrer la tristesse, la force et le courage du personnage.
Bienvenue dans Casting Express 2026. Aujourd'hui, on cherche la nouvelle Fantine. Mais attention, version moderne. Qui sera la star de notre adaptation des Misérables ? Je me présente, Marius. Je vais mettre nos deux candidates au défi avec une série de plusieurs questions. Nous allons commencer. Voulez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous seriez parfaite pour Fantine ?
Bonjour, je m'appelle Juliette et je pense être idéale pour Fantine car je sais transmettre la tristesse et la souffrance. Fantine traverse de nombreuses épreuves et je peux montrer mes émotions à travers mes expressions et mon jeu.
Salut, je suis Emma et je suis la personne pour Fantine. J'ai les qualités parfaites pour la jouer. Fantine est une mère aimante et attentionnée et j'ai l'expérience parfaite pour l'interpréter.
Qui est Fantine en 2026 selon vous ?
Fantine, c'est une maman solo, courageuse, qui ferait tout pour son enfant, même vendre son téléphone dernier cri.
Pour moi, c'est une femme forte, victime d'une société injuste. Aujourd'hui, ça serait peut-être quelqu'un qui aurait été licencié à cause d'une rumeur sur les réseaux sociaux.
Et toi Emma, qui es-tu pour jouer ce rôle ? Ça demande du travail.
Je suis experte en scène dramatique et je peux pleurer en 3 secondes.
Pour toi Juliette, que doit montrer une bonne Fantine ?
Beaucoup de courage, d'émotion et d'amour.
Quelle scène moderne proposes-tu ?
Une scène où Fantine poste une vidéo pour expliquer son injustice et personne ne la croit.
Quand Fantine est-elle courageuse ?
Quand elle continue de se battre, même quand tout va mal.
Quand elle pense à sa fille avant elle.
Où se passe son adaptation ?
Dans une grande ville, peut-être Paris avec les métros, smartphones, etc.
Moi je dis, dans un quartier populaire, pour montrer les inégalités.
Pourquoi Fantine est-elle importante aujourd'hui ?
parce que l'injustice existe toujours.
Et parce que beaucoup de personnes vivent encore des situations difficiles.
Selon vous, est-ce important de ressembler physiquement au personnage du livre ?
Non, pour moi, l'importance, c'est le jeu. L'apparence physique peut changer, mais les émotions doivent toucher le public.
Donc, vous misez tout sur l'interprétation plutôt que l'apparence ?
Exactement. Fantine est un symbole de courage et de souffrance, et c'est ça qu'il faut montrer.
Merci à tous les candidats.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, madame la réalisatrice, qu'avez-vous pensé de ces deux candidates ?
Les deux ont des personnalités très différentes, mais une candidate s'est démarquée. En tant que directeur de casting, qu'en pensez-vous ?
Oui, Juliette a brillé particulièrement. Elle incarne une Fantine courageuse, une Fantine modernisée.
Cette approche montre que le personnage des Misérables peut être interprété de plusieurs façons.
Cependant, une idée semble dominante. L'actrice choisie est capable de transmettre les émotions fortes et la tragédie du personnage. Le personnage de Fantine reste aujourd'hui encore un symbole des injustices sociales dénoncées par Victor Hugo.
Merci de nous avoir écoutés.
J'ai adoré. C'était tellement passionnant et amusant. Vraiment, c'était hilarant. Nous allons ensuite entendre une partie sur l'amour dans Les Misérables, présentée par Ornella, Asma, Elias, Marie-Émilie, Lilou, Johan et Lorenzo. J'ai hâte, c'est un roman tellement romantique.
Aujourd'hui, je vous parle de l'amour romantique. L'amour romantique peut apparaître entre deux personnes qui s'aiment profondément comme dans des couples par exemple. On peut en apercevoir dans la scène « In my life, a heart full love » dans Les Misérables cinéma de Tom Hooper en 2012. On peut aussi en voir entre Cosette et Marius dans le livre. Dans ce passage par exemple, Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Quiconque a aimé, c'est tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot, elle. Il lui semblait qu'il avait perdu son âme et qu'il venait de la retrouver.
L'amour sacrificiel dans Les Misérables. L'amour sacrificiel est un amour où on est prêt à tout, même au prix de sa vie. Par exemple, dans Les Misérables de Victor Hugo, cet amour est très présent, comme chez Fantine pour Cosette, car Fantine est prête à tout pour sa fille, même à se prostituer, à vendre ses cheveux et ses dents.
L'amour heureux dans Les Misérables. L'exemple tiré du livre sera l'évêque, Monseigneur Myriel, qui manifeste cet amour que les Grecs nommaient l'agapé à l'égard de Jean Valjean. Dans Les Misérables, l'évêque montre une sorte d'amour bienveillant à Jean Valjean, qui l'accueille comme un proche et qu'il protège de la prison le jour où les policiers débarquent chez lui, accusant Jean Valjean d'avoir volé les couverts d'argent. En effet, il ouvre ses portes sans jugement, malgré les rumeurs à son égard. L'amour paternel dans Les Misérables. L'amour paternel désigne l'amour profond et fort, l'attention et la protection qu'un père porte à ses enfants. Dans Les Misérables, nous pouvons prendre l'exemple de Jean Valjean envers Cosette. Il a sauvé Cosette de la maltraitance des Thénardier. En effet, elle a été leur sous-fifre. Jean Valjean la prend sous son aile. Il devient alors pour elle un véritable père.
Amour maternel. L'amour maternel est l'amour inconditionnel que porte une mère à ses enfants. Victor Hugo le représente à merveille dans Les Misérables avec Fantine face à Cosette. Elle lui offre beaucoup d'amour et de bienveillance et fait passer ses besoins devant les siens. Fantine sacrifie toute sa vie pour son enfant, quitte à en mourir.
Amour malheureux. L'amour malheureux, c'est quand l'amour se transforme en quelque chose qui mine la liberté d'une personne, sa sécurité, sa stabilité émotionnelle ou psychologique. Cela signifie qu'il s'agit d'un amour toxique ou malade. Dans l'amour Les Misérables, les personnes qui ont vécu un amour malheureux sont, d'une part, Fantine et son amant Tholomyès, d'autre part, Fantine et Cosette.
Amour impossible. Un amour impossible est un amour qui ne peut se concrétiser en une relation durable, qu'il soit réciproque ou non. Dans Les Misérables, l'amour impossible apparaît à travers des personnages comme Gavroche et ses sœurs. Victor Hugo montre ainsi que l'amour peut devenir une source de douleur lorsqu'il n'est pas partagé.
C'est tellement beau l'amour! Maintenant, voici Jérémy, Sabrina, Doron, Anas et Liam sur le thème des Misérables au cinéma. Ce roman est adapté par énormément de façons. J'ai hâte d'en savoir plus.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptation des Misérables de Victor Hugo par Robert Hossein en 1982. Pour moi, il s'agit de la meilleure adaptation des Misérables. Tout ce qui faisait du roman de Victor Hugo un pur chef-d'œuvre est retranscrit avec une fidélité incroyable, que ce soit la force des dialogues, la beauté des relations entre les personnages ou encore le naturel et la pudeur de l'amour entre Cosette et Marius. Je ne parlais pas de l'histoire en elle-même, car tout le monde la connaît. et celle à quel point elle est belle, touchante, profonde et vraie. Mais pour moi, cette version est la seule à proposer une écriture quasi parfaite des péripéties, des sentiments et des dilemmes du livre. Et puis, que dire des acteurs ? Lino Ventura est tout simplement incroyable de justesse dans la peau de Jean Valjean et capable d'interpréter ce personnage à toutes les étapes de sa vie avec un réalisme ahurissant. Il offre une immense performance et prouve une fois de plus qu'il est l'un des plus grands acteurs du cinéma français. De plus, tous les seconds rôles sont parfaits. Michel Bouquet impressionne dans la peau de l'inspecteur Javert. Et Jean Carmé offre un portrait complet de l'horrible Thénardier. En fait, si vous n'avez jamais vu une des nombreuses adaptations de ce livre incroyable, je vous conseille, sans aucune hésitation, de commencer par celle-là. Vous ne serez pas déçus. En ce qui me concerne, ce film rentre dans ma catégorie de bijoux cinématographiques. À voir absolument.
À présent, je vais vous parler du film de Tom Hopper réalisé en 2012. Ce film est très intense sur le plan émotionnel. Il est porté par des performances remarquables, notamment celle de Hugh Jackman dans le rôle de Jean Valjean et d'Anne Hathaway et celui de Fantine. La scène chantée d'Anne Hathaway est particulièrement émouvante. Le fait de faire chanter les acteurs en direct pendant le tournage du film renforce le réalisme et l'immersion dans l'histoire. Même si cela peut parfois donner les résultats inégaux en termes de qualité vocale. Sur le plan visuel, le film est très bien réalisé avec des décors et des costumes qui sont réussis et qui nous plongent bien dans l'ambiance de la France du 19e siècle. Cependant, l'utilisation fréquente de gros plans et le style dramatique de certaines scènes peuvent paraître excessif ou fatigant pour certains spectateurs. En résumé, il s'agit d'une adaptation puissante et fidèle à l'esprit de l'œuvre originale. Cependant, elle peut diviser les spectateurs en raison de sa mise en scène très appuyée et de son approche entièrement chantée, qui peuvent ne pas convenir à tout le monde.
Pour terminer, nous allons parler de l'adaptation du film Les Misérables de Lee Jae-li, sorti en salle en 2019. Ce film est fort, très fort. On est plongé dans un réel brut, mais sans jamais tomber dans les clichés du film de banlieue qu'on a tant vu au cinéma. Le rythme est soutenu, sans être surexcité, et la musique surprend. Ici, pas de rap, mais une ambiance électro qui accompagne les récits avec finesse. On suit Issa tout au long du film, un gamin de 14 ans, un gavroche moderne tiré du personnage des Misérables de Hugo, comme tant d'autres, qui se lâche, qui déborde, simplement pour exister. Et ce qui marque, c'est qu'il n'y a ni bon ni méchant. Chacun est à sa place avec ses tensions, ses contradictions. La banlieue, elle, est loin des clichés. C'est un lieu vivant, complexe, parfois explosif, mais profondément humain. Le réalisateur ne se pose jamais en porte-parole, mais en témoin, avec derrière lui une vraie expérience de la caméra, presque documentaire, nourrie par son vécu, et c'est justement cet ancrage qui donne toute sa force à ce film coup de poing, un film qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Eh bah, c'est impressionnant ! Merci d'accueillir Iliès, Gabin et Alban sur Jean Valjean, un héros hors pair.
Jean Valjean, un héros hors pair.
Pour commencer, qui était Jean Valjean ?
Jean Valjean était un héros des Misérables du livre de Victor Hugo. Bagnard libéré et repenti, devenu industriel et mère respectée de tous, décidé à faire le bonheur de Cosette.
Quelle est l'histoire de Jean Valjean ?
Jean Valjean est né dans une famille de pauvres paysans de la Brie en 1769. Il a perdu ses parents quand il était jeune et c'est sa sœur Jeanne qui l'a élevé. Son père s'appelait comme lui, Jean Valjean, ou Valjean, contraction de voilà Jean. Il était également émondeur. Il s'est tué en tombant d'un arbre.
Pourquoi Jean Valjean est-il un héros ?
Poursuivi par l'inspecteur Javert à cause de ses actes de délinquance, Jean Valjean passe une grande partie de sa vie en cavale et en consent à tous les sacrifices pour Cosette. Généreux, brave, bon, Jean Valjean devient un modèle de vertu et de courage.
Quel est le but de Jean Valjean ?
Jean Valjean est le personnage principal des Misérables écrit par Victor Hugo en 1862. Héros aux multiples facettes, il est à la fois défenseur des victimes d'injustice, la figure paternelle, un ancien bagnard et le maire de la petite ville de Montreuil-sur-Mer.
Jean Valjean a-t-il vraiment existé ?
Jean Valjean, alias Pierre Morin. En 1801, un certain Pierre Morin écope de 5 ans de bagne pour avoir volé un pain. Le malheureux voulait simplement nourrir ses 7 nièces et neveux qui mouraient de faim. Lorsque Victor Hugo découvre ses faits divers, il voit l'image de même de l'injustice.
Quel est le rôle de Jean Valjean dans Les Misérables ?
Jean Valjean est le personnage central du roman. C'est avec lui que commence le récit et c'est sur sa mort qu'il s'achève. Il est le fil conducteur de l'histoire et c'est lui qui crée les liens entre les autres personnages. Jean Valjean est le personnage central du roman. C'est avec lui que commence le récit et c'est sur sa mort qu'il s'achève. Il est le fil conducteur de l'histoire et c'est lui qui crée les liens entre tous les autres personnages.
Merci, au revoir.
Génial ! Cet homme est vraiment incroyable ! Maintenant, voici Camille, Sarah, Raphaël, Mehdi et Lucas sur une seconde histoire des arts, mais sur un autre tableau.
Nous allons vous présenter le tableau de Laurent Pattureau intitulé Victor Hugo aux frontières de l'exil. Les techniques utilisées sont l'aquarelle et le crayon de couleur sur papier. Il a été publié en 2013. C'est une illustration qui vient d'une bande dessinée sur Les Misérables de Esther Gilles. Dans cette œuvre, on voit une ruelle sale avec des débris et des personnes mal vêtues assises par terre. Nous avons choisi ce tableau pour représenter Les Misérables de Victor Hugo, car il représente la pauvreté et la misère.
C'était vraiment à la hauteur de la première œuvre. Désormais, passons au mariage de Marius et Cosette, la présentation de leur cérémonie nuptiale, interprétée par Inaya, Éléonore, Imran, Lénie et Adèle. C'est parti !
Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast spécial Les Misérables. Aujourd'hui, nous allons analyser un moment essentiel du roman de Victor Hugo, le mariage de Cosette et Marius. Nous allons montrer que ce mariage n'est pas seulement une scène heureuse, mais qu'il a une signification profonde pour les personnages et pour la société. Première question, à quel moment du roman se situe ce... J'ai bugué là. Première question, à quel moment du roman se situe ce mariage et dans quel contexte historique ?
Le roman Les Misérables a été publié en 1862, mais l'histoire se déroule principalement dans les années 1820-1830 à Paris. C'est une période marquée par de fortes inégalités sociales entre riches et pauvres. Le mariage de Cosette et Marius a lieu en 1833, juste après les barricades de juin 1832. Ces barricades correspondent à une révolte étudiante et populaire contre le pouvoir en place. Le mariage arrive donc après un moment de violence, de mort et de désespoir.
Merci. Deuxième question. Pourquoi peut-on dire que Cosette a connu un parcours particulièrement difficile avant d'arriver à ce moment de bonheur ? Merci. Deuxième question. Pourquoi peut-on dire que Cosette a connu un parcours particulièrement difficile avant d'arriver à ce moment de bonheur ?
Cosette a vécu une enfance très dure. Elle est confiée au Thénardier qui la maltraite et l'exploite. Elle est obligée de travailler comme une servante alors qu'elle n'est qu'une enfant. Jean Valjean la sauve et l'emmène avec lui. Il l'élève avec tendresse et lui offre une éducation. Grâce à lui, elle passe de la misère à une vie protégée et stable. Son mariage représente donc l'aboutissement d'un long chemin vers la dignité et le bonheur.
Et du côté de Marius, quelle preuve a-t-il traversé avant ce mariage ?
Marius est un jeune homme idéaliste, très attaché aux idées de justice et de liberté. Il se dispute avec son grand-père à cause de ses opinions politiques et se retrouve presque sans ressources. Il participe ensuite aux barricades de 1832 pour défendre ses convictions. Pendant l'insurrection, il est grièvement blessé et manque de mourir. Il ne survit que grâce à Jean Valjean, qui le sauve en le portant à travers les égouts de Paris. Son mariage représente donc une seconde chance, une vie retrouvée après avoir frôlé la mort.
Que symbolise alors ce mariage pour Cosette et Marius ensemble ? Que symbolise alors ce mariage pour Cosette et Marius ensemble ?
Pour eux deux, le mariage est l'officialisation. Pour eux deux, le mariage est l'officialisation de leur amour. Il marque la fin des épreuves et le début d'une nouvelle vie. Après la peur, la guerre et la séparation, ils partent de où ? Pour eux deux, le mariage est l'officialisation. Par contre, madame, il y a un mot que j'arrive pas. Pour eux deux. Pour eux deux, le mariage est l'officialisation de leur amour. Il marque la fin des épreuves et le début d'une nouvelle vie. Après la peur, la guerre et la séparation, ils peuvent enfin vivre paisiblement. Ce mariage symbolise la lumière après l'obscurité, la stabilité après le chaos. Il montre que même dans un monde injuste, le bonheur personnel reste possible.
Parlons maintenant de Jean Valjean. Comment vit-il ce moment si important ?
Jean Valjean aime profondément Cosette. Pour lui, elle représente sa rédemption et sa raison de vivre. Il accepte le mariage parce qu'il veut avant tout son bonheur. Mais il ressent aussi une grande tristesse, car cela signifie qu'il va perdre la place centrale qu'il occupait dans sa vie. Après la cérémonie, il choisit de révéler son passé à Marius. Il craint que son ancienne identité de forçat ne salisse leur avenir. Par honnêteté et par amour, il décide de s'effacer progressivement. C'est un sacrifice silencieux et courageux.
Peut-on dire que ce sacrifice a une portée symbolique dans le roman ?
Oui, car Jean Valjean incarne la possibilité de la rédemption. Ancien condamné, il est devenu un homme juste et généreux. En s'effaçant pour le bonheur des autres, il montre que l'amour véritable est désintéressé. Son attitude rappelle que le progrès moral passe par le pardon et le don de soi.
Enfin, quel message Victor Hugo veut-il transmettre à travers cette fin ?
Victor Hugo dénonce tout au long du roman la misère, l'injustice et l'exclusion sociale. En terminant par un mariage, il choisit une note d'espérance. Il montre que malgré la souffrance, l'être humain peut se relever. Le mariage symbolise le renouveau et la reconstruction après la violence des barricades. Il affirme que l'amour, la justice et la bonté peuvent triompher. Mais Hugo rappelle aussi que ce bonheur a un prix, le courage, la vérité et parfois le sacrifice.
Merci pour ces réponses. Pour conclure, nous pouvons dire que le mariage de Cosette et Marius n'est pas seulement une fin heureuse. Il représente l'espoir après la misère, la victoire de l'amour sur l'injustice et la possibilité d'un avenir meilleur.
C'est tellement émouvant ! Oh, mais que vois-je ! Nous avons maintenant un reportage en direct des barricades. J'ai hâte. Faites attention tout de même.
Nous sommes en direct à Paris, en juin 1832, en pleine insurrection républicaine. Des barrières ont été dressées dans les rues, les tirs sont nombreux et effraient les habitants qui sont enfermés chez eux. Des gens se battent au corps à corps, à même le sol. Nous sommes aux côtés d'un insurgé républicain. Pourquoi avez-vous décidé de vous révolter ?
Parce que le peuple en a assez. Nous n'avons pas de liberté. La mort du général Jean-Maximilien Lamarque a tout déclenché. Lui nous défendait et nous soutenait.
Mais le roi Louis-Philippe Ier est pourtant censé représenter une monarchie plus libérale.
Il est vrai qu'on nous a parlé de liberté, sauf qu'elle est entre les mains des plus riches. Les plus démunis, eux, n'ont aucun droit ni aucune parole.
Pourquoi ne pas changer les choses par le dialogue ?
Mais on a essayé. Le système favorise et n'écoute que les bourgeois. On ne peut pas participer aux décisions collectives, alors il faut faire entendre sa voix autrement.
La violence ne risque-t-elle pas, au contraire, d'aggraver la situation ?
Peut-être. Mais pour nous, ne rien faire serait pire. Regardez autour de vous. Ce sont des étudiants, des ouvriers, des citoyens qui se battent. On risque tous notre vie, c'est pour faire changer les choses.
Que voulez-vous concrètement pour l'avenir ?
Une vraie république. Un gouvernement qui représente le peuple et pas seulement les riches, où les décisions ne seront pas prises par une minorité.
Et si l'insurrection échoue ?
On aura fait entendre notre voix. Peut-être qu'on aura inspiré les générations futures. Les idées de liberté et d'égalité ne disparaissent pas parce qu'une bataille est perdue.
Que pensez-vous des gardes nationaux en face de vous ?
Beaucoup d'entre eux viennent du même peuple que nous et ont peut-être les mêmes difficultés. La différence, c'est qu'eux pensent défendre l'ordre et la stabilité, alors que nous pensons défendre la justice.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous partons à présent rejoindre un membre de la garde nationale. Quel est votre rôle aujourd'hui ?
Nous sommes là pour protéger la population et rétablir l'ordre. Des barricades bloquent des rues et des quartiers. La peur s'installe chez les habitants.
Les insurgés affirment pourtant qu'ils se battent pour la République et la justice. Comprenez-vous leur motivation ?
Qu'il puisse y avoir du mécontentement, ça je peux le comprendre. La situation économique est dure pour tout le monde. Se révolter avec des armes est donc assez idiot.
Mais certains disent que sans violence, les injustices ne changent pas.
Écoutez, c'est un débat complexe. Les changements doivent exister, mais sans mettre toute la société en danger.
Quand vous regardez les insurgés, que voyez-vous ?
Des citoyens, comme moi, qui pensent agir pour une bonne cause, mais nos vies sont différentes. Nous ne pensons pas les mêmes choses.
Craignez-vous que cette situation se termine en violent affrontement ?
J'en ai bien peur. Ils sont armés et nous riposterons s'il le faut. La population doit être protégée, c'est notre priorité.
Je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. Maintenant, nous connaissons le point de vue des personnes qui se battent. Certains pour défendre la justice et l'égalité, d'autres pour défendre la monarchie et rétablir l'ordre.
Waouh, c'était intense ! Oh, nous passons ensuite à un sujet beaucoup moins animé, qui est la nécrologie de Gavroche. C'est tellement triste ! Il mérite vraiment un hommage digne de ce nom.
C'est avec une immense tristesse que Paris apprend la mort de Gavroche, enfant des rues bien connu du quartier du Temple, 1832. Âgé d'une dizaine d'années, il a péri héroïquement sur les barricades de la rue de la Chanvrerie lors de l'insurrection républicaine du 5 juin 1832.
Jusqu'au dernier souffle, il ramassait des cartouches sous les balles ennemies en chantant, indifférent au danger. Orphelin de fée, abandonné par ses parents les Thénardier, il aura vécu libre et mourra en héros. Paris pleure l'un de ses enfants les plus courageux.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Ruisseau.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
Mon Dieu, c'est si triste! Le pauvre, il a vraiment été courageux jusqu'au bout. Nous allons, pour finir, entendre Léana, Selouane, Inaya, Elaya et Lina sur le magnifique poème Mélancolia. Eh bien, nous finissons ce podcast sur une note bien émouvante.
Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un poème très puissant écrit par Victor Hugo, Mélancolia, paru en 1856. Dans ce texte, Victor Hugo dénonce une injustice très forte de son époque, le travail des enfants dans les usines. Pour mieux comprendre ce poème, nous allons poser directement quelques questions à son auteur. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire Mélancolia ?
Les vers de ma fille Léopoldine m'a beaucoup attristée. J'ai voulu exprimer ma tristesse à travers ce poème et montrer ce que l'on ressent quand on a perdu un être cher.
Pourquoi avez-vous choisi de parler de la souffrance des enfants qui travaillent ?
À l'époque, beaucoup d'enfants travaillaient dans des conditions très dures, surtout dans les usines. Je voulais attirer l'attention sur leur souffrance et leur manque d'enfance.
Quel message vouliez-vous transmettre au lecteur avec ce poème ?
Je voulais montrer que la mélancolie n'est pas juste de la tristesse, mais une émotion profonde qui peut nous aider à comprendre la souffrance des autres et à faire réfléchir sur la vie.
Pourquoi la mélancolie est-elle si présente dans ce texte ?
La mélancolie est une douleur intérieure que l'on ressent quand la vie est difficile. Dans ce poème, je voulais montrer qu'elle fait partie de la vie de tous.
Que ressentez-vous quand vous voyez des enfants travailler dans les usines ?
Cela me rend très triste et en colère. Les enfants devraient jouer, apprendre et pas travailler comme des adultes toute la journée. C'est une grande injustice.
Pensez-vous que la poésie peut dénoncer les injustices sociales ?
La poésie peut toucher le cœur des gens et leur faire réfléchir, comprendre les problèmes sociaux. C'est une manière de faire réagir les lecteurs face à des injustices.
Pourquoi avoir utilisé des images sombres dans le poème ?
La mélancolie est souvent associée à des moments sombres, car c'est une émotion qui nous opprime. Je voulais montrer que la souffrance, bien qu'elle soit triste, peut nous aider à voir la réalité telle qu'elle est.
Que vouliez-vous que la société comprenne en lisant Mélancolia ?
Je voulais que les gens comprennent que la souffrance des autres, surtout des plus vulnérables, n'a pas à être ignorée. Il faut faire attention aux injustices et essayer de les changer.
Selon vous, comment peut-on améliorer la vie de ces enfants ?
Il faut permettre d'aller à l'école, de jouer, de vivre et de vivre une enfance heureuse. Loin du travail forcé, la société doit leur offrir un avenir meilleur.
Vous parlez du travail forcé dans plusieurs de vos romans. Selon vous, en quoi est-il important d'en parler dans la littérature ?
La littérature est un moyen de faire réfléchir les gens. En parlant de la souffrance dans les livres, on peut faire changer des mentalités et aider à résoudre des problèmes de la société.
Voici un extrait de Mélancolia, Victor Hugo. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules ? Ils s'en vont, travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstres hideux qui mâchent on ne sait quoi dans l'ombre, innocents dans un bagne, anges dans un fer, ils travaillent.
Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur, la cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas. Ils semblent dire adieu. Petits comme nous sommes, notre père, voyez ce que nous font les hommes.
Tout cela est très intéressant.
Oui, c'était génial. Nous avons appris tellement de choses.
Oui, j'ai adoré tous les sujets. Ils étaient tous très complets.
Vraiment, Victor Hugo est une légende. Je suis particulièrement impressionnée par tout ce qu'il a accompli. De plus, certains thèmes étaient très émouvants.
Oui, c'est vrai que j'ai versé ma petite larme.
Pour finir, nous pouvons dire que cet homme est exemplaire. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'en inspirer, car il a accompli de nombreuses choses durant sa vie, et ses œuvres sont impressionnantes.
Victor Hugo est un symbole de la littérature, alors n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez accomplir de grandes choses.
Au revoir !